Vous écoutez On lit pour vous.
L'épidémie s'approche du Grand Montréal. Un texte de Jean-Thomas Léveillé, paru le 7 juin 2026 dans La Presse. L'épidémie de rage du raton laveur s'approche de la grande région de Montréal, amenant les autorités à déclencher une opération de capture et de vaccination dans la banlieue sud de la métropole. Une soixantaine de professionnels de la faune installent des cages dans 32 municipalités de la Montérégie, dont Brossard, Longueuil et Boucherville, afin de capturer des ratons laveurs, mais aussi des moufettes, pour ensuite leur injecter le vaccin contre la rage avant de les relâcher. L'opération, qui couvre un secteur d'environ 750 km², durera jusqu'au 23 juin 2026. L'objectif est d'en capturer le plus possible, mais on ne pourra pas tous les capturer, indique la biologiste Marianne Gagné, coordonnatrice provinciale de la surveillance et du contrôle de la rage au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP. Un millier de bêtes pourraient être ainsi vaccinées, estime Mme Gagné, expliquant que cette opération ne faisait pas partie du plan initial, mais s'est imposée face à la progression des cas de rage vers le nord, notamment près de Chambly et à Mont-Saint-Hilaire. Ça, c'est inquiétant, car on arrive dans une zone qui n'a jamais été vaccinée depuis 2024, indique Mme Gagné. Les animaux vaccinés seront identifiés à l'aide d'une étiquette à une oreille et d'une peinture non toxique qui disparaît avec le temps, précise le ministère. Protéger le Grand Montréal. Les autorités veulent éviter que l'épidémie gagne les milieux urbains plus denses de la proche banlieue montréalaise. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'animaux domestiques. Le risque pour la santé humaine augmente, explique Mme Gagné. La rage est mortelle dans 100 % des cas, y compris chez les humains, dès que les symptômes apparaissent. Même l'île de Montréal n'est pas à l'abri, prévient la biologiste. Le fleuve n'est pas une barrière complètement hermétique, dit-elle, soulignant que les ratons laveurs et moufettes peuvent emprunter les ponts ferroviaires, le dessous des structures plus achalandées, ou même faire le trajet à bord d'un camion dans lequel ils se seraient introduits. Depuis le début de 2026, 65 nouveaux cas de rage du raton laveur ont été confirmés au Québec, portant le total à 159 depuis le début de l'épidémie en décembre 2024. Interdiction de déplacement. Québec a étendu dimanche l'interdiction de transporter des ratons laveurs, de même que des moufettes rayées, des renards gris et roux, ainsi que des coyotes et leurs hybrides qui sont à risque de contracter le virus en raison de leurs interactions avec les ratons. 19 municipalités de la Montérégie jusqu'à Varennes et Verchères s'ajoutent ainsi à la centaine où la mesure était déjà en vigueur. Il est en outre interdit aux refuges pour animaux de recevoir ou d'aller chercher ces bêtes dans les zones où l'interdiction est en vigueur. Cette interdiction est capital pour freiner l'épidémie, puisqu'un déplacement par l'humain, même sur une courte distance, peut amener un animal infecté dans une zone exempte du virus et y propager l'épidémie, explique Mme Gagné. C'est d'ailleurs ce qui pourrait expliquer pourquoi un cas de rage a été confirmé à Saint-Barnabé-Sud, au nord de Saint-Hyacinthe, à 25 km du plus proche cas connu. On soupçonne fortement qu'il y a eu des déplacements humains, dit Mme Gagné, qui indiquent qu'elle rencontre sur le terrain des gens qui ne sont pas au courant de l'interdiction. D'autres opérations à venir. Les opérations d'épandage aérien et manuel d'appâts vaccinaux prévus durant l'été pourraient être élargies à la lumière de la progression récente des cas. D'autant plus que les jeunes ratons laveurs nés ce printemps sont moins susceptibles d'être capturés et vaccinés dans les prochaines semaines. À ce temps-ci de l'année, les jeunes ne sont pas encore très mobiles, donc ça limite la capacité de capture, explique Mme Gagné, rappelant qu'il faut plusieurs années pour bâtir une immunité et venir à bout d'une telle épidémie. Plus de 206 000 appâts vaccinaux ont déjà été distribués manuellement à la fin d'avril et au début de mai 2026. La population des régions de l'Estrie et de la Montérégie, particulièrement dans les secteurs touchés par l'épidémie, est invitée à signaler les ratons laveurs, les moufettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou encore paralysés, en remplissant un formulaire en ligne. Toute personne ayant été mordue ou griffée ou qui a été en contact avec la salive d'un animal suspect doit nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, puis communiquer rapidement avec le service InfoSanté 811. En savoir plus, source, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. 6. Nombre de cas de rage détectés chez des moufettes rayées depuis le début de l'épidémie en décembre 2024. 153. Nombre de cas de rage détectés chez des ratons laveurs depuis le début de l'épidémie en décembre 2024. C'était « L'épidémie s'approche du Grand Montréal ». Un texte de Jean-Thomas Léveillé, paru le 7 juin 2026 dans La Presse.
La densification ou le deuil de l'espace privé abondant. Un texte de Francis Charbonneau-Majot, publié dans Le Devoir du 30 avril 2026. L'auteur est porte-parole du collectif Citoyen pour un projet collectif à Repentigny. En ce titre, soyons honnêtes, le modèle unifamilial tel que nous l'avons connu approche de sa phase terminale. Je me souviens d'une séance du conseil municipal. C'était à l'automne 2022. Des citoyens s'étaient déplacés pour exprimer leur inquiétude par rapport à des immeubles en construction derrière chez eux, sur d'anciens champs. Érigés sur des terrains plus hauts que les leurs, ces bâtiments faisaient craindre aux citoyens les répercussions liées à l'eau sur leurs propriétés. Dans les deux années qui suivirent, ce qui n'était jamais arrivé arriva, puis se répéta. La ville fut inondée à deux reprises. Un peu plus loin, des terrains en bordure d'un cours d'eau présenté comme « vacant », entre guillemets, avaient vu naître de nouvelles constructions sur toute leur superficie dans les années précédentes. Lors des inondations, elles se retrouvèrent sous l'eau. Les locataires des logements neufs y perdirent leurs biens et leurs logis. L'espace, que l'on croyait disponible, reprenait soudainement une fonction qui, semble-t-il, avait été oubliée. Les deux pieds dans l'eau, au milieu de l'artère principale, j'entendais des citoyens répéter, citation, « C'est ce qui arrive lorsqu'on développe sans agrandir les infrastructures. » Fin de citation. Le maire avait été clair, citation, « Je dois densifier. Québec nous y oblige. C'est ça où je dois augmenter vos taxes. » Fin de citation. La notion de « densifier » n'avait toutefois jamais été expliquée. Voilà l'expérience de la densification pour ses citoyens. Construire plus haut, mais toujours plus loin, jusqu'aux limites du possible. Construire dense sur des terrains vacants. Mais n'est-ce pas là une autre manière d'étaler? Pas dans ma cour. Deux ans plus tard, revenu dans la ville qui m'a vu grandir, je me retrouve face à un projet semblable dans mon quartier. Un terrain cultivé en périphérie de la ville, appelé à disparaître au nom de la densification, dans un secteur déjà fragilisé par les inondations de l'année précédente. Le mot me parut familier, la logique aussi. Je repensais à ces citoyens à l'hôtel de ville en 2022. Leur crainte aurait facilement pu être balayée du revers de la main par la fameuse étiquette du « pas dans ma cour ». D'ailleurs, je dois l'admettre moi-même. Assis au fond de la salle, je les écoutais et c'est exactement les termes qui me venaient à l'esprit. Pas dans ma cour. On disqualifie souvent les citoyens avec cette formule, comme si ce qu'ils expriment relevait d'un simple réflexe de refus et non d'une compréhension du territoire et d'un attachement légitime. Comme si leur inquiétude n'était qu'une résistance au changement et non une difficulté à se projeter dans ce qu'on leur propose. Car on nous répète qu'il faut densifier. Mais quand viennent les projets, on nous explique rarement ce que ça signifie. Où, comment et à quelles conditions? Derrière un même mot se cachent des réalités vécues profondément différentes. Et c'est peut-être ici que le malaise commence. Ce que l'on demande, ce que l'on offre. Nous évitons certaines choses dans les débats sur la densification. On parle de logement, de coûts, de pénurie. Mais on parle rarement de ce que cela implique pour ceux qui habitent ces milieux. Car densifier, ce n'est pas seulement construire autrement. C'est demander aux citoyens de vivre autrement. Densifier, c'est renoncer à un espace privé abondant, à la maison unifamiliale, à la cour arrière, à une forme de confort devenue pour beaucoup une promesse implicite. Étudier et travailler fort, fonder une famille, avoir sa maison. Or, ce modèle entre aujourd'hui en contradiction avec les contraintes de notre époque. Pression sur le logement, limites environnementales, finances publiques à bout de souffle. La nécessité de faire autrement est réelle. Entre cette nécessité et ce que vivent les citoyens, subsiste un écart que l'on sous-estime. On demande un renoncement tangible aux citoyens sans rien offrir en retour. Parce que si l'espace privé se réduit, l'espace collectif, lui, doit s'enrichir. Par une abondance de lieux accessibles, parcs, espaces naturels, lieux de rencontre. Sans cette contrepartie, la densification sera perçue pour ce qu'elle devient alors, une perte. Cela suppose de planifier des choses autrement. Non pas après coup, quand il ne reste plus de lieu où construire ou à protéger, mais en amont, pendant que nous avons encore le luxe de choisir. Ce geste changerait la nature même de la conversation. il dirait aux citoyens, « Nous savons ce que nous vous demandons, et voici ce que nous vous offrons. » C'est un pacte social implicite, et comme tout pacte, celui-ci nécessite pour commencer que l'on nomme honnêtement ce qu'il exige de chacun. Soyons honnêtes, le modèle de la maison unifamiliale tel que nous l'avons connu approche de sa phase terminale et nos élus le savent. Pourtant, personne n'ose l'assumer clairement. Et c'est peut-être là l'éléphant dans la pièce. Non pas la densification elle-même, mais le silence qui l'entoure. Réfléchissons-y maintenant. Sinon, lorsqu'il ne restera plus rien, la question reviendra implacable. Où construire des logements dans une ville qui affiche complet? C'est sur cette question que Francis Charbonneau-Majot termine son texte titré « La densification ou le deuil de l'espace privé abondant » publié dans Le Devoir du 30 avril 2026.
L'autisme au féminin, l'angle mort du sexisme médical, un texte de Mélina Nantel, paru le 7 mai 2026 dans la Gazette des femmes. Elles ont appris à sourire au bon moment, à soutenir le regard, à observer avant de parler. Pendant que l'autisme était étudié et diagnostiqué au masculin, des milliers de filles s'efforçaient de paraître normales. Pendant des décennies, les critères diagnostiques du trouble du spectre de l'autisme, TSA, ont été élaborés à partir d'études menées presque exclusivement auprès de garçons. Ce biais scientifique a façonné la pratique clinique et contribué à invisibiliser l'autisme chez les femmes. Au Québec, les garçons sont encore de 3 à 4 fois plus nombreux que les filles à recevoir un diagnostic, selon l'Institut national de santé publique du Québec. Derrière les statistiques, une génération de femmes est passée sous le radar médical, souvent au prix d'un épuisement, d'un diagnostic tardif ou d'années d'incompréhension. Un diagnostic construit au masculin. L'autisme a longtemps été perçu comme une condition essentiellement masculine et les outils d'évaluation ont été calibrés à partir de ses manifestations les plus visibles. On avait des grilles masculines, explique la docteure Isabelle Hainaut, psychologue, sexologue et directrice de la clinique Autisme et Asperger de Montréal. Formée en Australie, auprès du psychologue Tony Atwood, l'un des premiers à avoir étudié l'autisme au féminin, elle a vu affluer en consultation des femmes qui ne correspondaient pas au portrait classique. On avait l'impression d'évaluer avec le mauvais outil. Les différences sont parfois subtiles. Là où un garçon pourra exploser, une fillette se retirera. Une élève timide, dans la lune, sera rarement dirigée vers des ressources spécialisées. Si elle dit avoir des amis, l'hypothèse d'un TSA peut être écartée sans qu'on examine la réciprocité du lien amical. La socialisation genrée brouille les repères. Dès l'enfance, les filles sont encouragées à décoder les émotions et à maintenir l'harmonie. Certaines développent des stratégies sophistiquées qui masquent leurs difficultés. Le camouflage social. Avant même de recevoir un diagnostic, beaucoup de filles autistes apprennent une chose : pour être acceptées, il faut observer, puis imiter. Le camouflage, parfois appelé « masking », désigne l'ensemble des stratégies conscientes ou inconscientes utilisée pour paraître neurotypique. Forcer le contact visuel, réprimer des mouvements répétitifs, copier les expressions faciales, mémoriser des scripts de conversation, analyser mentalement les règles sociales avant d'oser parler. Les petites filles veulent des amis, mais présentent des maladresses. Alors elles observent comment les autres font, explique Isabelle Hainaut. Une femme lui a confié « Le jour où j'ai eu une amie au secondaire, je suis devenue mon amie. Coupe de cheveux, ton de voix, geste. Enfin, j'avais un repère. » Ce type d'imitation peut donner l'impression d'une bonne adaptation. À court terme, ça fonctionne. Le camouflage social rapporte beaucoup aux jeunes filles, note Émilie Robert, conseillère d'orientation auprès de personnes autistes en milieu collégial et autrice de l'ouvrage « Les personnes autistes et le choix professionnel ». Ça peut leur permettre de naviguer à l'école, de se faire des amis, de garder un emploi. Mais à long terme, c'est très coûteux. Car derrière la performance se cache une hyper-vigilance constante. Comme si la personne sortait d'elle-même pour s'auto-analyser en permanence, décrit Isabelle Hainaut. C'est extrêmement énergivore. Cette surcharge peut mener à ce que plusieurs appellent aujourd'hui un épuisement autistique, parfois confondu avec une dépression ou un trouble anxieux. Ce qui est perçu comme une capacité d'adaptation devient alors un mécanisme de survie. Diagnostiquer les femmes autrement. Quand le camouflage tient des années, le diagnostic arrive souvent tard, parfois après un effondrement. Plusieurs femmes consultent d'abord pour anxiété, dépression, troubles alimentaires ou épuisement professionnel. Certaines reçoivent un diagnostic de trouble de personnalité limite avant que l'hypothèse d'un TSA ne soit envisagée. Elles avaient souvent des diagnostics complémentaires à l'autisme, observe Isabelle Hainaut. Mais leur profil autistique n'avait pas été reconnu. Pour celles qui reçoivent un diagnostic à l'âge adulte, parfois à 40, 60 ou même 80 ans, le moment est teinté d'ambivalence. Beaucoup me disent que c'est à la fois soulageant et déprimant, rapporte Émilie Robert. Soulageant parce qu'un mot vient enfin expliquer une vie de décalage. Déprimant parce qu'il faut réinterpréter tout son parcours à la lumière de cette nouvelle compréhension. Isabelle Hainaut parle plutôt d'une clé. Pour beaucoup, le diagnostic ouvre les portes. Comprendre enfin pourquoi certaines situations étaient si difficiles, pourquoi l'école, l'emploi ou les relations demandaient autant d'efforts. Ne pas avoir été diagnostiqué plus tôt laisse des traces. Ça amène une estime de soi très heurtée, souligne Lily Plourde, directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme. Ça suscite un grand sentiment de culpabilité. On se dit « j'aurais dû faire mieux ». Or, pour plusieurs, un diagnostic précoce aurait permis d'accéder à des services scolaires, à des aménagements, à un soutien adapté. Santé, violence et maternité, des vulnérabilités accrues. L'invisibilisation du diagnostic ne s'arrête pas à l'enfance. Elle accompagne les femmes autistes tout au long de leur vie et peut amplifier des vulnérabilités déjà bien connues en santé des femmes. Les violences sexuelles en sont l'exemple le plus frappant. Une étude menée auprès de femmes autistes indique que près de 9 sur 10 rapportent avoir subi des violences à caractère sexuel. leur désir d'être acceptés, combiné à une difficulté à décoder certaines intentions ou à poser des limites claires, peut accroître le risque d'abus. À cela s'ajoute un manque criant d'éducation sexuelle adaptée. Comprendre explicitement les règles du consentement, reconnaître une situation de manipulation, distinguer une suggestion d'une obligation, sans ces repères, l'incompréhension peut devenir un terrain propice aux violences. La maternité constitue un autre angle mort. Plusieurs femmes autistes hésitent à divulguer leur diagnostic au personnel médical. Les soins obstétricaux et gynécologiques demeurent rarement adaptés aux besoins sensoriels ou communicationnels. Éclairage agressif, absence de prévisibilité, gestes posés sans explication préalable. Le plus grand frein, c'est le refus du corps médical de se former sur l'autisme et d'adapter les pratiques, soutient Lily Plourde. Il suffirait parfois de prévenir, avant de toucher, d'expliquer les étapes clairement, de s'assurer de la compréhension. Au-delà des adaptations concrètes, certaines femmes rapportent aussi un soupçon persistant quant à leur capacité à être mère. Le handicap devient un motif de signalement, déplore Lily Plourde. Des interventions hâtives, fondées davantage sur des préjugés que sur des données probantes, ont déjà été répertoriées. Plus largement, les personnes autistes présentent un risque accru de problèmes de santé non dépistés ou mal pris en charge, notamment en raison des difficultés à identifier la douleur ou à naviguer dans un système complexe. La question dépasse les parcours individuels. Reconnaître l'autisme au féminin ne revient pas à créer une nouvelle catégorie, mais à corriger un angle mort, hérité d'une médecine longtemps pensée au masculin. C'était L'autisme au féminin, l'angle mort du sexisme médical, un texte de Mélina Nantel, paru le 7 mai 2026 dans la Gazette des Femmes.